Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 18 octobre, le journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous. Manifestation attendue dans toute la France après l'assassinat du professeur de Conflans-Sainte-Honorine décapité. Dans ce journal, nous ferons le point sur l'enquête. 10 personnes sont toujours en garde à vue. Première nuit de couvre-feu en France pour les grandes métropoles. Un reconfinement nocturne plutôt bien respecté. À l'étranger, près d'un an après la démission de l'ex-dirigeant socialiste Evo Morales, les Boliviens sont rappelés aux urnes pour élire leur président. Et puis un derby de football sous couvre-feu. Le match Lille-Lens se déroulera à huis clos à partir de 21h pour la plus grande frustration des supporters de Lens notamment.
Les invités de la matinale à 8h10. Patricia Martin, vous recevrez
Michel Cotta et Robert Namias pour Le Brun et le Rouge. C'est un roman politique et c'est publié chez Robert Laffont.
Et à 8h20, la parole musulmane. Ce matin, rendez-vous avec nos deux invités, Khaled Bencher, le président de la Fondation de l'Islam de France. Également à 8h30, Tarek Oubrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux.
France Inter.
Contre l'horreur, donc, la mobilisation après l'assassinat de Samuel Paty.
En ce premier jour de vacances scolaires, beaucoup de Français se sont déjà rassemblés hier dans plusieurs villes de France pour se recueillir, donc après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo décapité, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. De nombreux enseignants en France n'ont pas attendu, je le disais, les grands rassemblements de ce dimanche après-midi pour rendre hommage aux professeurs, et notamment à Conflans-Sainte-Honorine, lieu du drame. Ils étaient très nombreux et sous le choc. C'est le reportage de Rémi Brancato.
Parmi les nombreux enseignants venus rendre hommage à Samuel Paty, le sentiment partagé, c'est d'abord la sidération.
Cet homme s'est fait assassiner parce qu'il avait fait son métier. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu en fait dans l'enseignement. On n'arrive pas à comprendre en fait ce qui s'est passé. C'est notre métier, oui.
Avec ses collègues, Kathleen Loubet, enseignante en maternelle, se demande comment parler de cet attentat.
C'est trop tôt, on n'arrive pas à mettre de sens parce que de toute façon, il n'y a aucun sens à cet acte.
Pour certains professeurs, il y aura un avant et un après, mais la peur ne doit pas prendre le dessus. Pour Anne-Marie Châtelain, professeure d'espagnol en lycée à Conflans.
Ce qui m'inquiète, c'est que si on doit à chaque fois réfléchir, est-ce que le support que j'utilise risque de choquer mes élèves ou les parents des élèves ou d'autres qui vont relayer l'information, là ça devient très inquiétant pour nous.
Car beaucoup d'enseignants évoquent les pressions de certains parents d'élèves et le manque de soutien de leur hiérarchie. Anne, professeure de français dans un autre collège des Yvelines, refuse de baisser les bras.
Je n'irai pas la peur au ventre, non, 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 non. Quand on a peut-être en arrière-fond l'idée qu'on va peut-être pas s'autoriser à dire tout et n'importe quoi, parce que peut-être que derrière la famille va mal interpréter ce qu'on va dire. On commence à s'auto-censurer et il faut pas. Mon métier, c'est vraiment la liberté d'expression. Je vais devoir encore plus montrer mes valeurs qu'avant.
Et préparer aussi le retour des élèves. Après les vacances, le dialogue sera plus que jamais nécessaire.
Rémi Brancato. Du côté de l'enquête, 10 personnes sont toujours en garde à vue, la famille et l'entourage de l'assaillant, mais aussi deux hommes qui, depuis deux semaines, dénonçaient les méthodes pédagogiques de Samuel Paty sur les réseaux sociaux, à la suite de son cours consacré à la liberté d'expression et au cours au cours duquel il avait montré à ses élèves de 4e deux caricatures de Mahomet. Les enquêteurs cherchent à savoir, Jean-Philippe Deniaud, quel pourrait être le lien entre ces deux hommes et l'assaillant.
Le premier est le père d'une élève de cette classe, celui qui a diffusé deux vidéos sur Internet dans lesquelles il réclame l'exclusion de l'enseignant dont il donne le nom et appelle les autres parents à manifester. C'est également lui qui va porter plainte contre Samuel Paty pour diffusion d'images pédopornographiques. Le second suspect est Abdelhakim Sefraoui, un agitateur islamiste bien connu du renseignement, fiché S depuis plus de 10 ans, déjà auteur d'appels à la haine contre des personnalités qui prônent un islam modéré. Il était en lien avec le père de la collégienne et il a même réalisé une vidéo avec sa fille dans laquelle il traite Samuel Paty de voyou. Peut-être que la seule influence de ces vidéos sur les réseaux sociaux ont convaincu Abdullah Kanzonov de passer à l'action. Mais les enquêteurs cherchent à savoir si les réseaux du prédicateur ne sont pas entrés en contact directement avec le jeune assassin qui habitait à 90 km de Conflans-Sainte-Honorine pour le convaincre d'agir.
Jean-Philippe Deniaud, et dans le cadre de cette attaque qualifiée par Emmanuel Macron d'attentat terroriste islamiste caractérisé, un conseil de restreint de défense se tiendra en fin de journée à l'Élysée. Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne, Rouen et la région parisienne, la fête est finie dans ces grandes métropoles. Le couvre-feu mis en place hier soir à 21h pour presque 20 millions de Français s'est achevé il y a 1h30. 21h, 6h du matin, tous se sont pliés à ce reconfinement nocturne, mesure prise par le gouvernement pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie et plutôt bien respectée. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter ce couvre-feu. Les autorités partent du principe que les Français connaissent bien désormais la situation et il faut aller vite pour ralentir l'épidémie, comme l'explique la commissaire centrale du 18e arrondissement de Paris, Emmanuelle Auster.
On est un petit peu plus dans l'urgence, on est un petit peu plus dans un temps restreint, on ne découvre pas la maladie, ses conséquences, et voilà, on a quand même franchi des étapes et tiré des leçons. On a déjà beaucoup sillonné l'arrondissement pour expliquer aux gens que, attention, le couvre-feu entrait en vigueur et qu'il allait falloir le respecter. Nous avons poursuivi notre œuvre pédagogique avant 21h, donc tout au long de la journée, pour rappeler aux commerçants et aux personnes qu'il fallait être à 21h à son domicile et ne pas quitter la voie publique uniquement à 21h. Là, on est quand même plutôt sur une phase qui a vocation à faire appliquer cette mesure de couvre-feu. Parce que je crois que c'est l'intérêt de tout le monde. Plus vite le couvre-feu est respecté, appliqué, plus vite la maladie recule, plus vite on peut penser qu'il y aura des assouplissements. Donc c'est une question de discernement, bien sûr, d'appréciation des situations, des raisons pour lesquelles les personnes sont dehors. Mais il ne faut pas escompter avoir des périodes de pédagogie qui dureraient. Voilà. Aujourd'hui, il faut respecter ce couvre-feu et comprendre que c'est pour notre santé à tous.
Emmanuelle Auster, commissaire centrale du 18e arrondissement de Paris, au micro d'Ariane Grissel. Et puis dans le journal du dimanche, le Premier ministre précise que l'aide de 150 euros dévoilée cette semaine pour les plus précaires sera étendue aux jeunes qui bénéficient des aides au logement ainsi qu'aux étudiants boursiers.
On vote aujourd'hui en Bolivie pour élire un nouveau président après plus de 10 mois de gouvernement intérimaire.
Il faut dire que le panorama du pays a changé depuis les violences de l'an passé. Le Covid est passé par là. Alors 7 300 000 Boliviens retournent aux urnes dans un climat de peur et de tension par deux fois. Le scrutin a été reporté à cause de la pandémie qui a durement frappé la population. 8 500 morts pour une population de 11 millions d'habitants. Ce qui a laissé la Bolivie dans une profonde crise sociale. Olivier Poujade.
Apparemment, la gestion par intérim de la sénatrice libérale et conservatrice Jeanine Agnès n'a pas servi de tremplin à la droite bolivienne. En 12 mois de transition, son gouvernement n'aura fait que répéter les erreurs du passé, estime l'universitaire Christine Delfour, spécialiste de la Bolivie.
On est revenu dans des gouvernements avec les travers que l'on connaissait jadis, encore plus de corruption, d'accaparement du pouvoir, des intermédiaires qui participent sans appel d'offres à des achats à l'étranger et qui reçoivent des pots de vin, etc., etc.
Ce nouveau scrutin pourrait donc offrir une nouvelle vie aux masses, longtemps dirigées par Evo Morales. Le mouvement pour le socialisme a l'opportunité aujourd'hui d'émerger comme une véritable force politique démocratique.
Au sein même du MAS, rappelez-vous que l'année dernière, il y avait énormément de divisions entre ces mouvements sociaux. Il y avait une espèce de recentrage du discours du MAS vers le centre et moins indianiste. Si vous voulez, Evo était assez clivant là-dedans.
Après avoir trouvé refuge au Mexique, c'est depuis l'Argentine qu'Evo Morales a tenté de diriger la campagne ces derniers mois, visiblement sans succès. Son ancien ministre de l'économie, Luis Arce, en tête des sondages, semble aujourd'hui déterminé à mettre en œuvre seul la seconde étape du processus de changement initié en 2005 par Evo Morales.
Olivier Poujade, il brigue ce dimanche un troisième mandat controversé. Alpha Condé, le président sortant guinéen, sera-t-il reconduit? C'est tout l'enjeu de cette élection. 12 candidats sont en lice, dont le principal opposant, Seydou d'Alène Diallo. Une semaine après un premier cessez-le-feu conclu, mais jamais respecté, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Nagorno-Karabakh, une nouvelle trêve humanitaire censée être entrée en vigueur hier soir a déjà été violée, tout comme le week-end dernier.
Le foot, malgré le coronavirus et malgré le couvre-feu.
Ce soir, le match Lille-Lens, derby rêvé des nordistes, se déroulera à huis clos à partir de 21h dans un stade Pierre Mauroy qui va sonner bien creux pour un tel rendez-vous. C'est d'autant plus frustrant pour les supporters de Lens car cette saison, leur équipe retrouve à la fois la Ligue 1 et ce derby très important après 5 ans d'absence. Reportage à Lens de Jean-Pierre Glimot.
À Lens, les supporters les plus fervents vivent très mal de ne pas pouvoir aller encourager les sang et or comme Richard, supporter de Lens depuis 30 ans.
C'est pas facile à vivre, mais je vais dans un café. Quand je suis en voiture, je mets la radio. Je suis toujours derrière eux.
Un sentiment renforcé par l'interdiction de se déplacer pour ce derby tant attendu. 5 ans sans s'affronter, c'est d'ailleurs du jamais vu entre Lille et Lens. Sur les réseaux sociaux, dans la ville, dans les commerces, pour Thomas, il faut que l'équipe soit soutenue d'une manière ou d'une autre.
Tant que l'équipe sait qu'il y a toute une région derrière elle, c'est le principal pour l'équipe.
Lors des matchs à domicile, les 5000 supporters autorisés au stade Bollaert ont beau s'égosiller. Pour Frédéric, la situation empêche la ferveur des dernières saisons.
C'est bizarre. Même à la télé, on prend moins de plaisir à regarder. En plus que là, l'équipe, elle tourne et elle tourne même très bien. C'est pas pareil.
Lens est en effet dans le haut du tableau et réussit son début de saison pour son retour en Ligue 1, ce qui atténue la frustration, tempère Laurent.
Lens a fait un excellent début de saison. Donc les joueurs savent que derrière, il y a quand même une bonne partie de la région qui les soutient.
Car de nombreux supporters ont en effet envisagé d'acclamer le bus des joueurs lensois au départ du centre d'entraînement et sur la route de Lille. Un derby du Nord à huis clos, c'est d'ailleurs une première dans l'histoire des deux clubs. Lens, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Qui termine ce journal présenté par Laurence Thomas.